Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, pour entamer cette deuxième heure de l'émission, on file sur les marchés comme à l'entame de chaque demi-heure. C'est Antoine Larigauderie qui est installé depuis cette salle de contrôle du CAC au siège de Euronext à la Défense et qui suit pour nous les évolutions, les atermoiements, j'allais dire, du CAC 40. C'est vrai qu'on est là juste sous le nouvel équilibre. On sent qu'on aurait bien envie de revenir au-dessus de là où on a laissé le CAC 40 vendredi, mais sans y parvenir pour le moment.
Oui, on tente un truc, hein, mais clairement, on manque de jus, il y a des résistances techniques. Donc, on est sur un petit repli de 0,18%. Maintenant, on est quasiment à l'équilibre, hein, 6632 points. Baisse un petit peu plus marquée du côté de l'Eurostock 50, qui baisse de 0,42%. Et même chose, d'ailleurs, du côté du DAX à Francfort, un marché qui a du mal à trouver ses marques, hein, en ce début de semaine. Bah, déjà, parce qu'il y a pas mal d'investisseurs qui souhaitent prendre des bénéfices immédiatement après la belle séance de vendredi, la séance à sorcière. Hein, on a marqué 1,02%. De hausse, on reste bénéficiaire de 0,8% sur la semaine. Peut-être de quoi prendre quelques bénéfices alors qu'on sent qu'il y a de très grosses résistances techniques un petit peu plus haut, hein, du côté des 6660 points. On les a légèrement dépassés en séance vendredi, mais pas moyen d'aller beaucoup plus haut. Il y a aussi quelques petits déséquilibres marqués, notamment du côté des taux et des écarts qui se creusent entre la dette américaine et les dettes européennes. On est toujours sous 2,5% pour la dette française, disons à 2,49, un petit peu au-delà des 2% pour la dette allemande, mais on reste du côté des 3,83% pour la dette américaine, ce qui fait que des écarts qui se tendent, c'est un euro qui est en souffrance, et ça sent à l'effet rémunération qui plombe un petit peu l'euro, qui redescend vers 1,02, là on est à 1,0231, alors qu'on avait bien marqué 1,03, 1,04 la semaine dernière. Là, on baisse, hein, dans le sillage de ces supports techniques. L'autre déséquilibre du moment, ça reste quand même l'euro-dollar avec le pétrole. Le pétrole qui est à 86,98 $, hein, sur le Brent de mer du Nord. On a bien décroché des 87, on perd 6% sur la semaine écoulée. Et on a un brut léger américain qui reste sous les 80 $, à 79,63 $, de la pensée que l'OPEP va un peu sonner le rappel en donnant des signes de vouloir baisser sa production pour faire remonter les cours. En tout cas, quelques spéculations traînent sur les marchés. Puis à noter le nouveau gros coup de faiblesse du Bitcoin qui est descendu sous les 16 000 $ tout à l'heure. On est remonté un petit peu au-dessus à 16 095, mais enfin on sent que la pression reste entière, hein, sur l'ensemble du secteur des cryptos. Donc, légère baisse du CAC. Alors, on est à moins 0,14 désormais, avec en tête des valeurs vraiment défensives. Pour le coup, on a Thales qui gagne 1,4%, on est à 118,65. On a Bouygues, plus 1,07 à 29,20. Quelques valeurs cycliques qui viennent s'intercaler, notamment l'automobile. Hein. Renault qui gagne 1% à 33,38. Stellantis, plus 0,8 à 14,51. Puis à noter Sanofi, plus 0,9 à 86,83 €. Du côté des baisses, à signaler ArcelorMittal qui est toujours mal orienté, à moins 1,5%, 24,69 €. On a nos deux spécialistes de l'ingénierie électrique, Legrand, moins 1,4 à 79,30 et Schneider Electric, moins 1,45 à 140,22. Les technologiques aussi, Dassault Systèmes, moins 1,4 à 35,75 et Téléperformance, moins 1,25 à 221,70 €. La plus forte baisse, elle est toujours pour Vallourec. Après ces chiffres 9 mois, le titre perd 8,4%. On est à 10,53 €. Le CAC 40, donc maintenant quasiment à l'équilibre. Toute petite baisse, moins 0,14, 6635 points. Du côté de l'euro-dollar, on cote à 1,0237, Cédric.
Antoine Larigauderie et tout de suite l'info éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est l'assurance chômage. Le gouvernement va présenter la nouvelle réforme ce matin. Objectif, moduler les règles d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Et selon les informations de BFM TV, si le taux de chômage est inférieur à 9% ou s'il baisse pendant 3 trimestres consécutifs, la durée d'indemnisation sera réduite d'environ à 25%. Pour tous les chômeurs, y compris les plus de 55 ans. En revanche, si le taux de chômage est supérieur à 9% ou s'il augmente de plus de 0,8% sur un trimestre, les règles d'indemnisation seront identiques à celles d'aujourd'hui. Les conditions d'accès, elles, ne changent pas. Il faut avoir travaillé 6 mois sur une période de référence de 24 mois. Le nouveau guichet unique ouvert par le gouvernement depuis ce week-end, il doit permettre aux entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire de demander les aides de l'État pour y avoir droit à leur facture. factures d'énergie doit avoir augmenté de 50% sur 3 mois et correspondre à au moins 3% du chiffre d'affaires réalisé l'an dernier. Le montant de l'aide peut aller jusqu'à 4 millions d'euros. Et puis on apprend ce matin que l'État accorde un prêt de 15 millions d'euros à Duralex. Toujours à propos d'énergie, le Qatar signe un contrat d'approvisionnement en GNL avec la Chine. Un contrat exceptionnellement long puisqu'il court sur 27 ans. C'est du jamais vu dans cette industrie. En Allemagne, les prix à la production ont baissé en octobre de plus de 4%. C'est une surprise puisque les économistes tablaient sur une augmentation de 0,9%. C'est lié à un recul des prix de l'électricité et du gaz naturel sur un an. Ils ont tout de même augmenté de près de 35%. On en vient à la faillite de FTX. La plateforme d'échange de crypto-monnaies doit un peu plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers. Le nouveau patron a lancé ce week-end une revue stratégique des actifs du groupe. Alors, y a-t-il un risque systémique sur les marchés avec la chute de FTX? Écoutez Marianne Barba-Layani, la nouvelle présidente de l'AMF. Elle était l'invitée de Good Morning Business ce matin.
Il faut raison garder. Quand on parle de risque systémique, ça serait effectivement une grande crise financière, etc. On n'en est pas du tout là. Ce qu'on essaye de savoir avec les interrogations qu'on a envoyées, c'est les acteurs qui sont sur le marché français, ouais, quelle est leur exposition à FTX. Mais je parle des acteurs crypto. Ouais. Et puis avec un certain nombre d'univers de finances traditionnelles qui peuvent avoir investi dans les cryptos. Pour l'instant, c'est assez limité d'après ce qu'on peut savoir, mais c'est effectivement un point d'attention. Il faut qu'on regarde ça.
Marianne Barba-Layani, la nouvelle présidente de l'AMF, qui était donc l'invitée de la matinale sur BFM Business. Les autres rendez-vous du jour sur notre antenne, vous le voyez, Pascal Gauthier, le patron de Ledger, sera l'invité de Good Evening Business à 18h15. Louis Gallois, 19h30 pour le grand entretien. Et puis on terminera la journée en musique et on parlera aussi technologie avec André Manoukian. Ce sera dans Tech & Co à partir de 20h35. On termine avec ce coup dur pour Vallourec. Le titre chute de plus de 8%. Le groupe publie un bond de 55% de son bénéfice trimestriel grâce à la hausse des volumes et des prix et la bonne performance de son activité tube. Mais la hausse des coûts énergétiques se fait sentir sur ses sites allemands que Vallourec envisage de fermer. Sur 9 mois, la perte nette s'alourdit à 444 millions d'euros. Contre 49 millions sur la même période en 2021, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie Collot, que l'on retrouve chaque heure pour prendre le pouls de cette actualité économique. Et nous, on ouvre Regard Croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Autour de la table, Éric Turgeman. Bonjour Éric.
Bonjour Cédric.
Pour OFIAM et Emmanuel Le Chypre pour BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Merci d'être au rendez-vous tous les deux. D'abord, que pensez, Éric, de ces marchés peut-être caractérisés par cette séance, ce début de séance. On sent comme une envie d'y aller, de remonter, de continuer finalement à progresser. Et puis, on manque un peu de carburant, d'envie, de compte. Enfin voilà, on manque de quelque chose.
Oui, alors, bon, les marchés viennent quand même de remonter très, très, très fortement depuis fin septembre. Hein, faut avoir ça en
On va y revenir sur ce 40 point, d'ailleurs.
40 à 15%, ouais. Mais c'est pour ça que ça manque d'envie. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, on manque un peu d'essence. Et puis, le CAC 40 est pas loin du niveau de début d'année. Enfin, surtout si on réintègre les coupons. Donc, voilà pourquoi ce manque d'envie. Moi, je vais plutôt retenir la force du marché action. Parce que si on nous avait dit il y a maintenant un an qu'il y aurait la guerre en Ukraine sur le territoire européen, que les taux américains iraient autour de 4%, les taux allemands à 2, qu'il y aurait une récession annoncée en 2023 et que le CAC 40 serait 5% ou 6% en dessous des niveaux de l'année dernière, personne n'y aurait cru.
Ouais.
Donc au-delà du manque d'essence pour aller plus loin, du manque de dynamisme, c'est surtout le niveau quand même incroyablement fort des marchés actions.
Emmanuel, vous avez un regard, vous, sur ce marché, sur son niveau, c'est vrai aussi. Hein.
J'ai deux hypothèses et j'arrive pas à trancher. C'est-à-dire, est-ce que il y a l'hypothèse de l'inconscience, c'est-à-dire est-ce que les marchés ont bien pris compte quand même de tous les grands changements un peu structurels qui se préparaient, hein. C'est-à-dire que quand on sort du monde de la grande modération avec les taux d'intérêt quasiment nuls, l'inflation quasiment nulle, etc., etc. Est-ce que finalement on arrive à croire qu'on sort de ce monde? Et donc est-ce que les marchés sont convaincus que la parenthèse qu'on vient de vivre sur l'inflation, etc., est effectivement une simple parenthèse, ou bien est-ce qu'on change durablement de monde? Donc j'hésite entre ce scénario-là, qui est le scénario de l'inconscience, ou bien le scénario qui consiste assez lucidement à quand même voir qu'il y a pas mal de forces de rappel au-delà de tous les bouleversements qu'on est en train de subir. C'est-à-dire que est-ce que les marchés sont capables aujourd'hui de discerner ce qui relève du choc ponctuel et de ces zones de choc qu'on est en train de subir, mais est-ce que le monde d'après va changer tant que ça? Et je pense que la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que le marché a bien résisté à des chocs, qu'il y a des raisons d'y croire. En réalité, qu'on ait ou pas une récession l'année prochaine, c'est-à-dire si c'est pour se battre sur plus 0,2 ou moins 0,2 points de PIB, je pense que c'est pas ça qui fait trembler les marchés financiers. C'est est-ce qu'il y a des véritables points de vraiment qui peuvent gripper l'économie mondiale, et au-delà des ralentissements qui sont liés à la hausse des taux aux États-Unis, au choc énergétique en Europe, aux difficultés Covid et immobilier en Chine, est-ce qu'on n'a pas quand même, quand on regarde les carnets de commandes des entreprises, une demande soutenue, un marché du travail qui se tient parce qu'il y a toujours ces pénuries de main-d'œuvre, des résultats financiers qui restent quand même assez bons, même s'il y a une déformation du partage de la valeur ajoutée qui va se faire peut-être un peu moins en faveur des actionnaires, mais en faveur des salariés. Donc non, en même temps, je suis pas complètement surpris.
Et alors, on essaie de mettre une petite pièce. Je l'avais un peu prévu pour la fin, mais allons-y maintenant. Est-ce que ce CAC 40, qui, vous l'avez rappelé, Eric, a déjà sacrément bien performé, si on regarde la courbe annuelle, on est remonté, mais il nous en reste un peu, il nous reste un mois et demi avant la clôture de cet exercice 2022. Est-ce que vous pensez que le CAC a suffisamment d'entrain ou de carburant possible pour revenir dans le vert d'ici la fin de l'année? Alors, il ne reste pas grand-chose, hein, finalement, vu le parcours.
Je vais répondre, mais je vais juste revenir, si vous le permettez, sur un point. Et du coup, en adéquation avec ce que vient de dire Emmanuel, vous venez de me poser la question sur le CAC 40. Est-ce que le CAC 40 va revenir dans le vert? Et en fait, ce que disait Emmanuel sur la première hypothèse, bon, il y a quand même des problèmes, hein, dans le monde, et peut-être que les marchés ne s'en rendent pas compte. Et là, vous me parlez du CAC 40. Et la réalité, c'est qu'en fait, on se focalise sur les grands indices. Et les grands indices, c'est pas l'économie. Il y a 8 milliards d'habitants, je crois, depuis la semaine dernière, officiellement, sur Terre. Si 90% de la population est affectée par tout ce qui se passe, c'est énorme, ça fait 7 milliards d'eux, il en reste 800 millions dans le monde. Et le problème, c'est que je pense que les grosses sociétés des grands indices, le CAC 40 ou l'Eurostock 50, etc., s'adressent pas aux 8 milliards d'habitants. Certaines s'adressent à beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de sociétés qui ont besoin peut-être que 100 000 personnes continuent à pas être trop affectées, ou 200 000, ou 300 000, etc. Et alors évidemment, il y a le luxe, hein, c'est la tarte à la crème, oui, hein, Hermès, LVMH et tout, dont les clients sont pas très affectés par le fait que l'euro, que le litre d'essence soit à 2 euros. Mais au-delà de ces sociétés-là, vous voyez, il y a une dichotomie. Et là, vous me parlez du CAC 40. Alors oui, le CAC 40, parce qu'il est composé de ces sociétés-là.
Et parce que c'est celui qu'on...
Eh bien oui, et parce qu'il est composé de banques qui, elles-mêmes, entre guillemets, prêtent à des clients plutôt solvables, etc. Oui, les indices peuvent s'en tirer. Alors est-ce que le CAC 40 va revenir dans le vert? Honnêtement, j'en sais rien. Nous, on était passé positif en septembre, c'est facile à vérifier, il y a tous les podcasts. Maintenant, on a fait 15%, donc tactiquement, on se dit c'est pas complètement stupide de prendre nos bénéfices et de revenir à la neutralité. Donc nous, on pense que ce niveau-là, voilà, en gros, autour de 3008, 3009 sur l'Eurostock 50, c'est un bon niveau. Donc on n'a pas envie d'en remettre, on va dire. Voilà. Donc, il y a un mois et demi, effectivement, pour moi, tout était noir, mais une grande partie était anticipée par les marchés, parce qu'à un moment donné...
Et donc ça a laissé de la place.
Ça a laissé de la place, quand plus personne n'investit, la moindre bonne nouvelle permet cette étincelle. Et la bonne nouvelle, il y en a eu quelques-unes quand même, c'est d'abord de penser qu'il y a de la visibilité sur les taux, puisqu'on se rend bien compte, a priori, les premiers chiffres montrent, enfin, je parle un peu sous le contrôle des manuels, mais que la Fed ne devrait pas aller plus loin que ce qui était anticipé il y a encore quelques mois et à peu près au mois de mars. On y est, hein, mars c'est demain. La BCE, 3 mois de plus, mais en juillet, on a atteint le pic. Donc là, il y a une certaine visibilité. Et puis, les sociétés viennent de publier des résultats exceptionnels.
Mais en fait, Emmanuel, c'est vrai qu'on est dans, si on prend tous les indicateurs, on est dans un couloir qui rassure les marchés. C'est-à-dire, on est un peu dans un... Vous vous rappelez du serpent monétaire qui était borné à la hausse et à la baisse. Et là, en fait, sur tous les grands indicateurs, on est finalement borné à la hausse comme à la baisse de façon assez rassurante. C'est-à-dire que, par exemple, on sait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la croissance, on sait que la croissance peut potentiellement finalement finir à 0+ ou 0-, mais il y a peu de risques qu'on ait des récessions avec des baisses d'activité de moins 2, moins 3, moins 4. Donc là, c'est plutôt rassurant. Bon, la croissance capée à la hausse, on sait très bien que ce ne sera pas formidable. Mais on a la même chose sur les taux d'intérêt parce qu'on a aussi la même chose sur l'inflation. Je veux dire, l'allure, la trajectoire de l'inflation en 2023, elle est acquise. C'est-à-dire que l'inflation, on voit très bien que la hausse des prix va ralentir assez nettement en 2023. De combien et quand est-ce que ça va commencer? Mais on sait très bien qu'on finira l'année beaucoup plus bas que là où on l'a commencé. Donc, vous voyez, on est quand même dans des marges de fluctuations qui sont réelles, mais qui sont pas si énorme que ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant. On pourrait dire la même chose sur le marché des changes, par exemple, ou sur les marchés obligataires. Ce qui fait que finalement, les risques d'extrêmement mauvaises surprises sont assez limités, même si on prend ce qui se passe sur les grands risques systémiques, par exemple. Et quand on sait quand même que les grandes banques sont toujours au cœur du système financier, quand on voit quand même la solidité financière des banques aujourd'hui, c'est plutôt rassurant. Alors effectivement, on a peut-être après des marchés comme les crypto-monnaies, mais enfin, c'est pas des marchés systémiques, c'est pas des marchés qui ont un impact sur l'ensemble de l'économie mondiale. Si ces marchés s'effondrent pour le moment, bah ça fait perdre beaucoup d'argent à dire, mais ça ne remet pas en cause, encore une fois, le système financier mondial.
Eric, vous nous aviez rapidement emmené aux États-Unis. Comment vous percevez cette économie américaine? Parce que vous nous avez rappelé que la Fed avait déjà fait la plus grosse partie de son travail. Et en même temps, on a ces midterms qui nous donnent un congrès divisé. Bon, certes, il n'y a pas eu cette vague rouge, etc. Mais malgré tout, on sait qu'avec ce congrès divisé, il va y avoir moins de stimulus budgétaire. Et donc, finalement, ça va aussi dans le sens de la Fed. C'est-à-dire moins de carburant mis dans le moteur. Et donc, la Fed en passe de quoi? De réussir son pari? Comment vous voyez l'économie américaine, justement?
Ouais, bon, la Fed, elle pilote à vue, hein, elle aussi. Hein.
Enfin, oui, mais bon, toujours plus rassurant pour elle que...
Oui, mais ben, effectivement, ce qu'elle voit, c'est que voilà, l'inflation, il y a eu un chiffre. Il ne faut pas se réjouir sur un chiffre comme ça la semaine dernière, mais voilà, qui était plutôt rassurant. Moins de fuel budgétaire, on va dire. Donc, je pense que la Fed va poursuivre son programme sur les premiers mois de l'année, peut-être d'ailleurs un peu moins. On est à 25 ou 50.
Ouais, c'est-à-dire plus 75 systématiques.
Peut-être pas, mais grosso modo, ce qui était important pour la Fed, c'était d'ancrer les anticipations d'inflation et de montrer qu'elle était là. Parce que l'année dernière, les marchés ont pu penser qu'elle avait été dépassée, qu'elle était dans le déni, puisqu'il parlait d'inflation transitoire, et qu'à un moment donné, on s'est dit, mais c'est pas si transitoire que ça. Donc, d'une certaine façon, ils ont donné un grand coup de barre. Ils commencent à gagner leur pari. Alors, je ne sais pas si c'est l'action de la Fed qui, honnêtement, qui a une implication aussi évidente sur l'inflation, parce que c'était aussi une inflation d'offres. Donc c'est plus compliqué que ça. Enfin, toujours est-il que les chiffres tombent bien pour la Fed, qui va pouvoir sans doute
tranquillement atterrir.
Tranquillement atterrir, ce qui est quand même la meilleure nouvelle pour les marchés. Voilà. Alors il n'y a pas que cette nouvelle-là, mais ça participe.
Emmanuel, rassurant de voir la Fed finalement se rapprocher a priori de son pivot. Ça fait quand même des mois que tout le monde a ce fameux taux terminal en essayant de le définir, le deviner, le...
Ouais, je pense qu'effectivement, on est quand même assez rassuré de la capacité, comme on le disait, des marchés à avoir absorbé quand même des hausses de taux assez fortes, et que paradoxalement, le scénario qui se dessine quand même pour 2023, c'est un scénario de relatif équilibre. Et si vous voulez, ce qu'a fait vraiment La spécificité de 2022, c'est la violence des mouvements. Alors, liée à la violence des chocs, et ça a été la violence des mouvements. violence des mouvements sur les marchés actions, violence des mouvements sur les taux, on peut parler de violence des mouvements sur l'échange et mouvement et violence du mouvement sur l'inflation. Et je crois que la 2023, ça va vraiment être au contraire une année de tendance progressive à la hausse, à la baisse, mais qu'on ne sera pas bousculé finalement par la grande ampleur sur un temps très court de beaucoup de tendances lourdes.
Voilà donc pour le côté américain. Nos marchés, ils gambergent pas mal effectivement sur ces questions de banque centrale. Ils auront d'ailleurs tout le loisir de lire les minutes cette semaine. Mais il y a aussi un autre thème qui les intéresse beaucoup, c'est la Chine. On a longuement pointé cette économie du doigt, d'abord parce qu'il y avait le zéro Covid, ensuite parce qu'il y avait ce congrès. Bon ben voilà, c'est passé. On commence à avoir un peu de réflexion, de réouverture, même s'il y a des doutes sur Pékin, etc. Mais ça va un petit peu mieux. On a l'impression qu'il y a comme une volonté de relance. Est-ce que vous, ça vous satisfait ? Je ne sais pas si le mot est le bon, mais...
Oh bah c'est toujours un élément positif, parce que ça participe...
Vous y croyez d'abord
Oui, alors moi ce que je crois, c'est que Xi Jinping avait besoin, comme économiquement ça n'allait pas très fort, il avait besoin de montrer qu'il avait réussi sur un point. Alors il s'était englouti dans Covid zéro, voilà, donc au prix d'un blocage terrible de l'économie chinoise, mais il voulait arriver à ce congrès en disant, voilà, j'ai réussi, vous voyez, il n'y a pas un seul cas de Covid. Bon. Donc de ce point de vue-là, officiellement, il a réussi, il est réélu, ce n'est pas le bon terme, mais il est reconduit,
ouais, reconduit.
Pour quelque temps.
Resacré.
Et alors, surtout, au-delà de ça, c'est son, entre guillemets, politburo autour de lui, qui lui est complètement dévoué. C'était ça l'interrogation. On savait à peu près qu'il serait reconduit, mais avec qui ? Et là, c'est que des gens qui lui sont favorables. Donc, il a les coups des franches. Donc, il a les coups des franches aussi pour ouvrir un peu plus l'économie, desserrer les taux sur le Covid. Nous, on a des gens qui sont là-bas professionnellement et qui le... Voilà, je ne savais pas trop d'ailleurs, mais là, qui nous disent que oui, petit à petit, on commence à avoir une réouverture. Et ça va permettre de débloquer des chaînes, des goulots d'étranglement, surtout. Donc ça, c'est très positif. Et des inflationnistes, puisque ces goulots d'étranglement vont permettre d'acheminer des semi-conducteurs, etc.
Donc, en même temps, il y en a qui disent, attention, parce que si la Chine se réouvre, si la Chine redémarre, elle aura à nouveau besoin de moult et moult matières premières. Et ça...
Oui, ça va faire monter les matières premières, notamment celles qui sont liées à la transition énergétique. Oui, il y a ce risque-là, mais moi je vois ça quand même plus positivement. Surtout dans un contexte où la croissance mondiale est revue autour de 2,5%, je crois, pour 2023, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Bon, donc voilà, ça va contrebalancer, c'est pas plus mal.
Emmanuel, vous y croyez, vous, à cette relance chinoise ?
Mais exactement comme ce qu'on dit depuis le début sur, effectivement, l'espèce de normalisation. C'est-à-dire que dans la brutalité des chocs qu'on a évoqués pour 2022, il faut rajouter aussi les chocs d'ouverture, fermeture de l'économie et des usines chinoises. On va, effectivement, manifestement, vers une normalisation. Et la nouvelle qui est rassurante, c'est quand même que le bénéfice de cette normalisation de l'économie chinoise en termes, comme on le disait, de capacité de production, de fluidité de l'approvisionnement des chaînes de production mondiales, le bénéfice est supérieur à l'inconvénient, effectivement, d'un surcroît de demande chinoise qui pénalise, effectivement, qui a un effet inflationniste sur les matières premières. C'est-à-dire que l'effet pénurie, aujourd'hui, dans les perturbations de chaînes de production et dans l'inflation, il est plus grand, finalement. On a plus à y gagner si on se débarrasse de ces difficultés-là que ce qu'on va perdre avec l'accélération de la demande chinoise. Donc ça aussi, c'est une tendance à la normalisation, entre guillemets, qui va plutôt dans le bon sens.
Voilà donc pour ces grandes questions. Alors maintenant, j'en ai quelques-unes qui sont un peu annexes, mais qui sont intéressantes tout de même. D'abord, Paris, c'était la semaine dernière, qui ravit à Londres sa place de première bourse européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Juste pour mémoire, en 2018, quand BFM Business a lancé le sommet BFM Patrimoine, la première plénière, c'était Paris, capitale des capitaux, point d'interrogation. Il a fallu quelques années, mais ça y est.
Alors là, c'est par le biais des capitalisations boursières.
Ouais, c'est capitalisation.
C'est les premières. Bon, donc ça peut être très volatile, et je crois que c'est surtout sur le en raison de la baisse de Londres classe de Paris. Voilà, mais c'est...
Vous me gâchez mon cocorico.
Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien, surtout le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, si la France peut reprendre le leadership en Europe, c'est très très bien. Non, c'est une bonne nouvelle, mais bon, encore une fois, faut faire attention. Ça va, ça vient, et c'est au gré des capis. Ça veut dire que les sociétés françaises, sont fortement capitalisées. Mais encore une fois, on en revient au CAC 40 avec les valeurs du luxe qui sont qui sont pas négligeables.
Vous n'aimez plus le CAC 40, on l'aura compris.
Si. Bon, au contraire.
Non, mais le
Emmanuel.
Bah, disons que la force d'une place financière ne se mesure pas seulement à sa capitalisation boursière. Et il reste que la place financière de Londres est quand même une place financière qui compte autrement à l'échelle mondiale que la place de Paris.
Les crypto-actifs, là aussi vous en avez dit un mot, mais prenons le temps de regarder cette crise. On entendait les chiffres que nous rappelait Stéphanie Collo sur ce que doit, entre guillemets, FTX à ses premiers clients. C'est quoi ? C'est une crise de plus ? Une crise encore ? Enfin, comment vous voyez les choses ? Ça vous amuse ? Ça vous désespère ? Non, alors, ça vous indiffère ?
On s'amuse jamais des craques. Mais bon, je vais être très honnête, c'est une question que vous m'avez posée il y a un an, quasiment jour pour jour, et on était à 50 000 ou 60 000 sur le Bitcoin.
Et maintenant, on est à 16 000.
Ouais, j'ai répondu avec une joke, je suis trop vieux ou pas assez intelligent. Je suis incapable de valoriser ça. Incapable, mais même aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis capable de valoriser des indices boursiers, mais a priori, j'essaye. Éventuellement, des taux obligataires, mais alors, je ne sais pas. Le Bitcoin, voilà, donc 50 000, 60, 100, on nous disait 200. Maintenant, 16, je ne sais pas. Voilà. Alors, j'y touche pas. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Quand je ne comprends pas, je n'y touche pas. Maintenant, derrière, systémique, je ne crois pas. Moi, j'ai entendu, comme vous, les propos de la nouvelle présidente de l'AMF. Je ne crois pas que ce soit systémique. Mais, encore une fois, ça rappelle triste réalité. Tout a un prix. Et voilà. Mais je ne suis pas capable de vous dire. Je n'irai pas vous dire c'est le moment d'acheter parce que ça a perdu 75%.
Il y a plus que la valeur du Bitcoin. Quoi. C'est aussi une crise d'adolescence, de croissance.
C'est toujours ça, le Far West, au début. Enfin, je veux dire, quand on la révolution du chemin de fer, c'était exactement ça. Vous aviez une innovation technologique majeure qui a vu se greffer autour d'elle tout un tas de gogos, de gens plus ou moins sérieux. Il y en a qui ont perdu leur chemise. Il n'empêche que le chemin de fer, c'était une révolution technologique majeure. Là, je pense que personne ne remet en cause la valeur de l'innovation, c'est-à-dire ce que ça peut apporter concrètement, les crypto-monnaies, la blockchain, etc. Reste que tout ça demande de la régulation. Quand même, et voilà, mais c'est une grosse péripétie, mais faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est comme avec Enron, fallait pas jeter le bébé avec l'eau du bain malgré les abus, et à chaque fois que vous avez une immense révolution technologique et énormément de liquidités de l'autre côté, vous êtes sûr que là vous avez armé finalement tous les bazookas pour avoir des secousses financières majeures avec des gens qui ont été peut-être trop enthousiastes et qui vont perdre en partie leur chemise face à ce qui ressemble à du Ponzi relativement classique dans le cas de FTX.
Merci beaucoup. Emmanuel Lechypre, BFM Business, et Eric Turgeman pour OFIAM étaient au cœur de Regards Croisés aujourd'hui. Bon retour dans vos maisons respectives et bonne semaine sur le marché. Marché qu'on va ausculter dans un instant. Techniquement, en tout cas, grâce à Andrea Tony, que l'on va rejoindre chez Saxo Bank, notre marché qui, quand on regarde le CAC 40, continue à perdre un petit peu de terrain. Pour le moment, on se maintient sur une baisse de 0,2%, 6629 points.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
À 11h passées de 32 minutes, on ouvre cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine et on file tout de suite sur le marché en prendre le pouls technique grâce à Andrea Tweny qui nous attend chez Saxo Bank et qui depuis l'ouverture suit pour nous un petit peu les pulsations du marché qui ne parvient pas pour le moment. On sent qu'il y a un fond de volonté mais qui ne parvient pas à revenir sur son niveau de clôture de vendredi soir. Qu'est-ce qui manque techniquement, Andrea, au CAC pour revenir dans le vert ?
Il manque en tout cas beaucoup de prises d'initiative. On sent que c'est très calme depuis ce matin. On a, on va dire, plusieurs doutes, plusieurs questions qui restent en suspens et auxquelles on n'a pas vraiment de réponse ferme et définitive qui permettrait, on va dire, d'éclaircir un petit peu l'horizon et d'y voir un petit peu plus clair sur ce marché et sur cette capacité. Alors après, il faut replacer un peu les choses dans leur contexte. On reste quand même sur un biais qui est beaucoup plus positif maintenant depuis plusieurs semaines et notamment depuis la publication des CPI aux États-Unis. Mais c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, notamment du côté de la Fed sur le fait qu'on ait des hausses de taux un petit peu moins fortes que celles qu'on a eues les mois précédents, et sur aussi la finalité, à quel niveau de taux nous serons dans quelques mois, donc quel niveau de taux va être atteint du coup par la Fed après sa politique de durcissement. Et ces questions-là aujourd'hui, elles ne sont pas encore répondues. On voit, il y a des voix qui sont extrêmement dissonantes du côté de la Fed, certains messages qui sont plus dovish que d'autres, qui sont beaucoup plus hawkish pour le coup. Et donc ça, on va dire, ça crée, on va dire, une incertitude, on va dire, sur le marché qui pénalise aujourd'hui la prise d'initiative et on va dire le dynamisme qu'on peut voir aujourd'hui et qui est un petit peu absent depuis ce matin. Et c'est vrai que cette prise d'initiative aujourd'hui empêche, on va dire, les investisseurs de porter le marché un petit peu plus haut. On manque du coup de ce second souffle qui permettrait d'aller chercher des niveaux plus importants, et on atteint pour moi un niveau un petit peu plateau où on a du mal à casser le haut du range sur le CAC, constitué autour des 6675-80 à peu près, et ce bas de range qui est autour des 6535-50. Voilà à peu près les niveaux dans lesquels on est sur le CAC, et on a une difficulté, on va dire, à sortir de ces niveaux-là en raison de ces éléments qui sont aujourd'hui, on va dire, un petit peu dissonants, des voix qui sont dissonantes et qui manquent, on manque un petit peu de visibilité. On a encore des speakers de la Fed qui s'exprimeront demain et qui vont peut-être apporter un petit peu plus de mouvement du coup et un peu plus de volatilité sur ce marché. Et on aura aussi les minutes de la Fed qui seront publiées mercredi qui sera une journée particulièrement chargée avec donc à la fois la publication des minutes de la Fed, mais aussi des indicateurs macroéconomiques et notamment les PMI. On sait que la fin de semaine sera tronquée avec jeudi jour férié aux États-Unis, vendredi une demi-séance aux États-Unis pour ce week-end de Thanksgiving, et donc du coup ça aussi ça concentre, on va dire, potentiellement les mouvements sur cette première moitié de semaine, même si aujourd'hui c'est vraiment le calme et l'attentisme qui l'emporte sur le marché. On n'a pas beaucoup de catalyseurs. Il y a aussi un aspect aussi technique au niveau l'évolution des taux après la publication de l'inflation et justement tout ce questionnement qu'on a eu autour de la Fed et ce rebond qu'on a vu sur les indices. On a eu justement des taux qui sont affaiblis. On voit le rendement du 10 ans américain qui est repassé sous les 4%, mais depuis les mouvements sont aussi quasi absents. On s'est stabilisé, on va dire, sur un niveau autour des 3,80% sur le 10 ans américain, et ça aussi ça freine, on va dire, les indices dans leur capacité justement de rebond. On a fait déjà peut-être beaucoup du mouvement de hausse, en tout cas qu'on a pu observer, déjà peut-être largement ou peut-être déjà pas mal entamé. Donc ça sera aussi une question qu'on aura sur cette fin d'année. Est-ce qu'on a un potentiel de hausse qui est encore important sur les indices? Ce qui est important en tout cas, c'est qu'on voit que sur les phases de consolidation, on n'a pas vraiment non plus de relais, donc c'est d'où, on va dire, la situation de plateau sur laquelle on est. Et après, sur l'euro-dollar, il y a un mouvement qui est un petit peu différent et qui est aussi en parallèle, qu'on peut mettre en parallèle avec justement ce qu'on observe sur les taux. On n'a pas eu de continuité dans la baisse des rendements des taux obligataires, et notamment dans la baisse du 10 ans américain, et c'est ce qui permet du coup au dollar de se renforcer de nouveau. On le voit aujourd'hui, on a un mouvement qui est assez important sur le dollar, qui se renforce assez nettement face à l'euro, et ça aussi ce sera observé dans les prochains jours. Est-ce que vraiment les marchés ont un petit peu pour le moment lâché ce thème, on va dire, d'une Fed un petit peu plus accommodante? On le verra. En tout cas sur les indices, c'est pas encore net, mais il y a beaucoup d'attentisme et beaucoup de prudence sur cette paire euro-dollar, et notamment sur le dollar d'une manière générale. On sent qu'il y a un petit peu moins de conviction que ce qu'on a pu observer il y a quelques séances encore.
Merci beaucoup Andrea Twenny, qui depuis Saxo Bank suivait ce marché ce matin pour nous. Merci Andrea, on se retrouve lundi prochain. Le CAC 40 donc qui hésite un petit peu sur la conduite à tenir, on perd 0,2%, 6629 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et c'est Frédéric Lorenzini qu'on le retrouve en ligne avec nous depuis le groupe FICAD. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous d'idées de fonds ce matin. Aujourd'hui, on parle marché obligataire avec un ETF proposé par Invesco. De quoi s'agit-il?
Alors Invesco, on va le rappeler, c'est un des plus grands gérants intervenants sur le marché européen. Et puis c'est un gérant qui a une grosse expérience sur les ETF. Invesco avait lancé il y a de cela près d'une vingtaine d'années la gamme PowerShare. Invesco compte parmi les premiers opérateurs à avoir proposé des ETF sur le marché européen. Surtout avec PowerShare, c'était du smart beta avec les indices RAFI. Donc c'est des gens qui ont, comme on dit dans le jargon, un bon track record.
C'est quoi ce nouvel ETF exactement?
Alors, cet ETF proposé par Invesco, c'est un ETF qui va jouer un indice des marchés obligataires américains, US, Govies. Les Govies, ce sont les obligations gouvernementales. Donc, cet ETF suit l'indice Bloomberg US Long Treasury. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un indice obligataire long, puisqu'on va avoir en portefeuille des obligations avec une durée de vie résiduelle de 10 ans et plus. C'est ça la grande caractéristique de cet indice.
Bon, Frédéric, il y a quand même un fait, c'est qu'en ce moment, c'est plutôt compliqué à suivre, non, les marchés obligataires.
Oui, c'est vrai, c'est même très compliqué, on le rappelle, hein, mais quand les taux remontent, comme c'est le cas actuellement, quand les taux remontent, mécaniquement, le prix des obligations baisse. C'est mécanique, c'est symétrique. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est la question de la sensibilité, Cédric. Alors, la sensibilité, ça peut sembler un petit peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette baisse du prix de l'obligation est d'autant plus sensible que la durée de vie résiduelle de cette obligation est longue. Donc, une obligation qui va être remboursée dans 2 mois est quasiment pas sensible, elle est insensible à l'évolution des taux. Et puis, une obligation qui sera remboursée dans 20 ans sera très sensible à l'évolution des taux. Et quand on regarde la performance de cet indice Bloomberg, eh ben, on voit bien qu'au cours des 2 dernières années, eh bien, la valeur de l'indice a sensiblement baissé. Et donc, du coup, pour les investisseurs, comme cet indice a baissé, la question qui se pose, c'est est-ce que nous ne sommes pas sur un point d'entrée? Est-ce que ça va continuer à baisser ou est-ce qu'il faut y aller?
Bon, mais on y est ou, mais on y est ou pas sur des points d'entrée?
Alors, oui, vous me posez une question qui est en fait une question spéculative, c'est de quoi l'avenir sera-t-il fait? Est-ce que les taux vont continuer à monter? Si les taux continuent à monter, le prix des obligations va continuer à baisser, ou est-ce qu'on est arrivé à une forme de plateau, un maximal, un maximum, et puis ça va commencer à redescendre progressivement? Tout dépend de vos vues macroéconomiques, c'est un exercice assez compliqué, et vous m'excuserez, Cédric, de ne pas vous accompagner beaucoup plus que ça sur cet exercice.
Vous ne nous ferez pas de market timing aujourd'hui, on a bien compris. Mais malgré tout, il va quand même falloir que vous nous donniez votre sentiment sur ce produit, entre guillemets, ce fonds qui aujourd'hui retient votre attention dans l'idée de fonds. On y va ou on n'y va pas?
Alors, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Alors, au-delà des réserves d'usage hein, sur les perspectives macroéconomiques, ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant de parler de cet ETF, c'est que ça apporte de la diversification. Ça apporte de la diversification géographique, puisqu'on est exposé à la bonne santé de l'économie américaine, mais aussi en termes de classe d'actifs, puisque souvent, les investisseurs ont tendance à s'exposer soit aux fonds en euros, soit aux actions. Là, ça permet de s'exposer à la classe d'actifs obligataires. Alors, le côté positif de cet ETF, c'est qu'on a vraiment des frais planchers à 0,06%, donc on est à 6 points de base. Ça, c'est le côté positif, ça permet de s'exposer à la classe d'actifs obligataires. Attention quand même, si on décide de mettre en portefeuille ce type de véhicule, c'est qu'on prend une exposition sur le dollar. Donc, à un moment, ça peut impacter la performance. Donc, c'est en même temps séduisant parce que ça apporte de la diversification, pardon. Et puis, en même temps, il y a des facteurs de risque qu'il faut intégrer avant de faire son choix.
Merci beaucoup Frédéric Lorenzini en ligne avec nous depuis le groupe FICAD ce matin pour évoquer cette ETF proposée par Invesco, le marché parisien qui pour le moment manque vraiment de carburant. On est sous la ligne de flottaison depuis l'ouverture sur une baisse de 0,2-0,3% pour le moment, moins 0,27 à 6626 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Christian Fontaine est en plateau pour la rédaction du Revenu. Pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr et tous les jours, vos questions trouvent leurs réponses. Prêt, Christian ?
On y va.
Allez, c'est Antoine qui vous écrit. Il a une seule question qui l'intéresse. Comment protéger son capital?
Alors, pour le coup, il ne s'entend pas le seul à poser ce type de question. Alors, c'est vrai que la réponse la plus, entre guillemets, immédiate, ça consiste à conseiller à Antoine, et c'est sans doute ce qu'il pense aussi, de placer l'intégralité de ses économies sur des placements sans risque, entre guillemets. Bon. Simplement, vous voyez bien où je veux aboutir, c'est que ce sont des placements qui aujourd'hui rapportent moins que la hausse des prix.
Alors, ça allait payer, mais ça ne paye plus.
Voilà, c'est ça. Alors vous allez me dire, oui, mais l'épargne logement, les livrets réglementés, voire même l'assurance vie, les taux de rendement vont augmenter en 2023. C'est vrai. Hein, livret A, on va peut-être sans doute passer à 3%. Le CEL, on va passer de 1,25 à 2%. Le PEL, peut-être de 1 à 2. Oui, pour la première fois depuis des années, l'assurance vie en euros rapportera plus donc en 2022 qu'au cours des années précédentes. Il n'empêche que l'ensemble de ces placements va continuer à rapporter moins que la hausse des prix. Et là, c'est très important parce que, en fait, derrière cette question, c'est un peu l'appréhension de l'inflation. L'appréhension de l'inflation dans la vie de tous les jours, pour la consommation, c'est très simple. Hein. C'est quand le prix, quand ça vous coûte plus cher, si vous me permettez l'expression, de remplir, de faire un plein, qu'auparavant. En matière d'épargne, c'est plus sournois, c'est plus compliqué. Vous pouvez très bien avoir plus d'argent sur votre livret A à la fin de l'année qu'en début d'année, puisque vous avez profité d'un rendement de 1 ou de 2%, de 2% en l'occurrence aujourd'hui. Et donc, avoir le sentiment d'être plus riche, il n'empêche que vous avez pu perdre en pouvoir d'achat si la hausse des prix a été plus importante pendant l'espace de temps. Bon. Donc, surtout, il ne faut pas faire le point que j'avais évoqué au début, à savoir tout placer la totalité de cet argent sur des placements sans risque. Au contraire, en période d'inflation aujourd'hui, il faut réduire le poids de l'épargne logement, des livrets réglementés et de l'assurance vie. Et c'est en prenant des risques que vous allez protéger votre patrimoine, Antoine. Donc, c'est la fameuse stratégie 50-50 ou 60-40 du revenu. Peu ou prou, la moitié sur des placements sans risque et la moitié sur des placements à potentiel. Tous les Français, en tout cas la très grande majorité des épargnants qui nous écoutent, ont trop de liquidités et pas assez de support, je dirais, à potentiel. Alors, ça peut être des actions, ça peut être des SCPI, ça peut être des produits structurés, ça peut être du non-coté. Il y a toute une panoplie assez large. En tout cas, pour protéger son épargne en période d'inflation, il faut avant tout éviter de faire l'autruche et il faut diversifier ses placements. Voilà, Antoine, ce qu'on pouvait dire.
Je rappelle juste que effectivement, quand il y a quelques jours, Thibaut Cosnet du Conservateur est venu sur le plateau et il nous a pris un exemple d'un couple entre guillemets, deux parents, deux enfants avec quatre livrets à saturer, avec 50 000 euros en assurance vie. Et ben, la perte de pouvoir d'achat, nous disait-il, de cette épargne prudente sera de 8 000 euros cette année.
C'est
considérable.
C'est énorme. Si vous prenez la même
sans
chose,
bruit là.
Si vous prenez un couple avec deux enfants uniquement sur l'aspect épargne réglementée, donc 4 livrets A au plafond et 2 LDDS, la perte de pouvoir d'achat cette année, vous pouvez l'estimer à 4 000 euros.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs, l'ensemble, globalement...
C'est pas la forêt qui pousse sans bruit, là c'est la forêt qui pousse pas sans bruit. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et alors là, on parle du microéconomicus, on parle au niveau individuel, mais si on raisonne au niveau macro, la perte de pouvoir d'achat de l'épargne, on n'en parle pas du tout assez. Cette année, on peut l'estimer autour de 100 milliards d'euros, puisque les Français ont peu ou prou 2 milliards d'euros placés sur des placements qui rapportent moins que l'inflation.
On avait fait des cocorico sur l'épargne Covid, entre guillemets, en se demandant ce qu'on allait en faire. Là, l'épargne Covid, elle va fondre à vitesse grand V. Quoi.
Là, l'épargne Covid, alors sur une ou deux années, ça va encore aller. Il ne faut pas non plus faire peur aux épargnants qui nous écoutent. Mais,
mais les inciter à gérer plus activement, quoi. C'est pas faire peur. Quoi.
Les inciter à sortir leur placement des tiroirs, surtout à éviter de faire l'autruche et à revoir, c'est l'élément clé, hein, leur allocation d'actifs en étant relativement classique, toujours en investissant bien dans des placements qu'ils comprennent.
Ouais, c'est pas aller faire le fou sur des placements exotiques.
On a bien vu ce qui s'est passé récemment sur le marché des cryptos. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à sortir des sentiers battus, mais en matière d'épargne, il faut savoir aussi rester relativement classique. Et donc, Antoine, pour protéger votre capital dans la conjoncture actuelle, je dirais que votre allocation d'actifs, c'est-à-dire la répartition entre les placements risqués et les placements non risqués, c'est ça l'élément essentiel. Antoine, si vous êtes relativement jeune, il ne faut pas hésiter à prendre du risque à peu près sur 50% de vos économies, sachant bien sûr que on ne passe pas du jour au lendemain d'une situation 100% investie sur des placements sans risque.
Attention toujours, mais ça c'est pour tout, hein, pas de porte de salut balloon, ça, pas de grandes embardées.
On évite une stratégie d'essuie-glace, c'est-à-dire des grands mouvements à gauche ou à droite. On monte et on rentre sur les marchés financiers progressivement. L'idéal, vous y investissez 100-200 euros chaque mois. Et ceci, et ce, pendant de nombreuses années, quand les marchés sont bas, vous achetez davantage de titres. Quand ils sont plus élevés, vous en achetez moins. Et ça permet de moyenniser votre prix de revient et de maximiser vos gains.
Attention donc effectivement à l'impact quasiment sans bruit de l'inflation sur votre épargne.
Il fait du vision.
Question d'Isabelle. Comment rebâtir un patrimoine après le choc d'un divorce ?
Alors le divorce c'est un choc, alors peut-être pas un choc mais en tout cas une épreuve personnelle, une épreuve bien sûr financière, ça se traduit directement par un appauvrissement des ex-époux. Bon bien sûr les placements sont jamais au cœur des préoccupations. Les stratégies à mettre en place, bon ben c'est très variable en fonction des niveaux de revenus, niveau de patrimoine et la visibilité. Je dirais que dans un premier temps la priorité c'est pas les placements, c'est l'équilibre budgétaire, retrouver un certain équilibre entre les revenus et les dépenses. Sur le plan des placements, souvent la période qui suit un divorce, une période d'incertitude, on ne sait pas très bien où on va. Donc il faut plutôt privilégier, alors pour le coup, comme Antoine tout à l'heure, des placements sans risque, des livrets, donc alors de l'épargne logement, de l'assurance vie en euros, et puis surtout.
On reprend la base, quoi, finalement.
On accorde la priorité à des placements liquides. C'est-à-dire que c'est une période d'incertitude, on ne sait pas très bien quels seront les. Sur le plan budgétaire, quels vont être les besoins. Et donc on place son argent dans des supports d'investissement où on peut récupérer son argent sans pénalités, des pénalités bancaires, des pénalités fiscales. C'est pour ça que les livrets réglementés sont parfaitement bien adaptés à ce type de situation. Voilà. À partir de ce moment-là, sur le plan immobilier, il ne faut pas hésiter éventuellement à passer par la case location pendant quelques mois en attendant d'avoir plus de visibilité que la situation se stabilise un tout petit peu. Et après ça, c'est pas pour botter en touche, mais les conseils sont forcément individuel en fonction de votre situation, en fonction de votre situation personnelle. Mais c'est vrai qu'on recommence un peu souvent à zéro. C'est acquisition, bien sûr, être propriétaire de son logement. Alors peut-être un petit conseil en phase de constitution d'épargne. D'abord l'épargne de précaution, ensuite acquisition de son logement. On a parfois trop tendance à tout mettre dans l'acquisition de son logement. Alors dans les grandes villes, on n'a pas trop le choix, mais ça peut être intéressant de conserver une toute petite poche pour l'investissement boursier. Vous savez, l'investissement boursier, pour gagner en bourse, il faut rester en bourse, investi suffisamment longtemps pour profiter de la tendance haussière de la bourse sur le long terme. Donc il ne faut pas hésiter à investir quelques milliers d'euros en bourse à 25 ou 30 ans, parce que c'est l'effet temps qui va vous permettre de vous enrichir encore, qui est un effet de levier très très puissant. Hein. Tout à l'heure, on parlait de retraite. Si vous investissez 150 euros par mois tous les mois en bourse à partir de l'âge de 25 ans, vous aurez quand même un chiffre qui fait rêver. Vous aurez quand même 600 000 euros à 65 ans. 1 million d'euros si vous avez commencé, non pas avec 150 euros, mais avec 15 000 euros d'investissement de départ. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'effet de levier du temps est très important. Et lorsqu'on se reconstitue un patrimoine après un divorce, conserver, 5 000, ouais. 10 000 euros en bourse qui vont fructifier de leur côté et vous en profiterez au bout de 10, 15, 20 ou 30 ans.
Question de Florence. En juillet dernier, ses parents ont accueilli ses enfants et employé une nounou pour les garder. Et elle se demande quel sera le taux de la réduction d'impôt.
Alors, la réduction d'impôt, elle sera de 50%. Que ce soit ses parents ou elle, ça sera pareil. Donc, 50% des sommes dépensées, décaissées, qui vont venir en réduction du montant de l'impôt. Donc, c'est très significatif. Bien sûr, il y a un plafond, 12 000 euros et 15 000 euros. Si c'est une première embauche d'une aide à domicile. Comme manifestement cette aide à domicile a été employée au domicile des parents de Florence, ouais, ce sont les parents qui vont
les parents,
profiter.
C'est ça, parce que voilà, c'est à son domicile. Voilà,
ce sont les parents qui devraient profiter de la réduction d'impôt. Ce qui est intéressant, c'est que cet avantage fiscal, pendant longtemps, en fait, ça a été un crédit d'impôt pour les salariés et ça a été une réduction d'impôt pour les retraités. Alors maintenant, c'est un crédit d'impôt pour tout le monde. Ça signifie que si les parents de Florence payent peu d'impôts et que l'avantage fiscal en fait est supérieur au, au montant impôt. D'impôts qu'ils doivent payer avant défiscalisation, ben, l'administration fiscale remboursera la différence. Ah oui. Alors attention, hein, cette réduction d'impôts pour salariés à domicile, bon, c'est un avantage. Ça fait partie des avantages fiscaux les plus utilisés par les Français. Il y a plein de pièges.
Oui, mais parce qu'il y a la femme de ménage, il y a la garde voilà. pour les enfants, il y a le jardin.
Voilà, c'est ça. Et même d'ailleurs, le soutien informatique éventuellement à domicile. Alors attention, parce qu'il y a quand même plein de subtilités. Non, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur service-public.fr. Vous avez bien sûr le site du revenu ou votre site, mais c'est le site officiel de l'administration française, rubrique particulier, argent, puis vos droits, impôts sur le revenu. Et ne pas confondre non plus cette réduction d'impôts-là, si vous employez une nounou pour garder vos enfants, avec la réduction d'impôts auquel vous avez droit pour garde d'enfants à l'extérieur du domicile, hein, chaque mois compte, et dont le plafond devrait être augmenté à l'occasion
mais tout ça rentre
de l'adoption
dans le
du projet de loi de finances.
Pour... Et que donc
alors il... voilà, ouais, c'est tout ça,
faire
effectivement.
Faire attention.
Alors effectivement, si vous employez une nounou ou du personnel de maison à hauteur presque du plafond, on va dire 12 000 euros pour faire simple, ça fait 6 000 euros d'économie d'impôts. Et vous savez qu'en France, donc les avantages fiscaux pour les particuliers sont plafonnés à 10 000 euros. Donc si vous mettez en place en cette fin d'année une stratégie de défiscalisation, sachant que votre reste à défiscaliser n'est pas égal à 10 000 euros, mais 10 000 euros moins 6 000 euros, ça fait 4 000 euros. Donc ça, c'est important.
Donc attention pour ne pas défiscaliser pour rien.
Voilà, c'est ça.
On va appeler un chat.
Voilà.
Bruno a une fille de 19 ans qui vient d'hériter d'un patrimoine immobilier important de la part de son parrain. Et Bruno s'inquiète pour l'IFI de sa fille.
Alors, bonne nouvelle. Il s'inquiète pour l'IFI de sa fille. Il s'inquiète aussi peut-être pour son IFI à lui. Et donc, mais qui l'un peut être lié à l'autre. Sauf que là, il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les règles fiscales sont différentes pour l'impôt sur le revenu ou pour l'IFI. Et c'est vrai que pour l'IFI, à partir du moment où le patrimoine immobilier de votre enfant majeur ne doit pas être déclaré sur votre déclaration à vous. Un enfant majeur doit remplir
même
sa propre...
Même s'il est rattaché...
Alors même si pour l'impôt sur le revenu, même s'il vit encore chez vous, même si pour l'impôt sur le revenu, il est rattaché sur votre déclaration de revenu, pour l'IFI, les règles sont différentes. Donc vous allez pouvoir déduire ou ne pas ajouter le patrimoine de votre fille à votre propre patrimoine immobilier. Et puis comme souvent, les jeunes, même s'ils héritent d'un patrimoine, ils n'ont pas de capital, donc ils n'ont pas de patrimoine, donc votre fille risque de ne pas être à l'IFI, et puis vous n'allez pas augmenter votre impôt sur la fortune immobilière. Bien sûr, c'est la fin de l'année, donc c'est le moment idéal pour optimiser votre IFI, hein, puisque c'est la valeur du capital au 1er janvier. Donc en cette fin d'année, très concrètement, un conseil pratico-pratique, on peut dire considérer qu'il est trop tard pour vendre un bien immobilier. Bon, vous pouvez éventuellement, la seule possibilité qui vous reste, c'est de donner éventuellement un bien immobilier à vos enfants. Si c'est fait avant la fin de l'année, ça ne rentrera pas dans votre base taxable qui correspond à la valeur de votre patrimoine immobilier au 1er janvier.
Mais quand on a peu de revenus, l'IFI, il y a quoi ? Il y a un bouclier ? Il y a...
Alors, ouais, c'est
parfois à 19 ans, on peut peut-être pas avoir les... Même si, admettons que le patrimoine de la fille de Bruno la rend éligible à l'IFI, cette jeune fille de 19 ans, et qu'elle est étudiante.
Il y a des tas de mécanismes, effectivement, de plafonnement qui existent, ou de défiscalisation, même d'ailleurs tout ce qui est la défiscalisation si vous investissez dans des œuvres philanthropiques avec des leviers très puissants, puisque la réduction d'IFI est égale à 50% du montant des versements. Mais oui, il existe un certain nombre de mécanismes qui permettent d'optimiser l'IFI des jeunes et moins jeunes. Vous avez raison de le préciser, de le rappeler.
Merci beaucoup Christian Fontaine et la rédaction du Revenu. N'hésitez pas à nous écrire. Notre mail vous attend, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr, afin de poser vos questions. Et nos experts chaque jour vous répondent. Dans un instant, c'est 60 minutes business et on retrouve donc avec plaisir Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire de ce début de semaine.
On reviendra évidemment sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage avec Caroline Morisson. On reviendra aussi sur la reprise des implantations du cœur Carmat. Ça va reprendre après un an de suspension. Stéphane Pian nous en parlera dans le Focus. Et puis, on reparlera aussi de réparabilité de l'électroménager avec le cofondateur de Murphy, hein, le spécialiste de la réparation d'électroménager. Puis, à 12h30, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs avec Lorraine.
Merci beaucoup. On vous retrouve donc dans un instant, 60 minutes business. Et nous, le rendez-vous est fixé demain matin à 10h. Je vous souhaite une très bonne journée. Le CAC 40 perd 0,19%, 6 631 points.
C'était votre rendez-vous avec Échiquier Gestion Privée pour gérer et valoriser vos capitaux. Échiquier Gestion Privée, ensemble faisons grandir votre patrimoine.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.